Voilà, on est le mardi 27 octobre, on est le Tet, le 9 Cheshvan, et on continue le troisième cours, Parshat Lech Lecha. Donc à la fin du cours d'hier, on a expliqué que finalement après toute cette élévation et toute cette recherche en Eretz Israël, en Eretz Kenaan, Abraham est parvenu à l'ultime secret, c'est-à-dire qui il est, qui sa femme et lui sont, d'où ils viennent, et donc ce qui va lui permettre de comprendre bien sûr l'importance de sa mission. Et comme on l'a vu hier, la compréhension, la révélation de ce qu'il est sont dans les mots Vayet Ho'alo. Il a planté, c'est pas vraiment ce qui est marqué comme je l'ai expliqué hier, mais à notre niveau, il a planté la tente. Et dans ces deux mots, il y a une allusion Yet, Yud, Tet, Achava, et Ho'alo, 41, et les quatre lettres 45, valeur numérique de Adam, c'est-à-dire qu'il a eu la révélation de ses origines, donc automatiquement du rôle qu'il va devoir jouer sur Terre. Et là, on arrive donc à un point très important, parce que c'est ce qui va nous permettre, j'oserais pas dire d'expliquer, mais au moins de survoler trois passages extrêmement importants qui vont suivre, et qu'on va expliquer. Et je commence. À partir du moment où Abraham se rend compte qu'il est la réincarnation de Adam et Sarah la réincarnation de Chava, à ce moment-là, immédiatement, il comprend que sa mission va être de réparer, comme je l'ai expliqué hier, la faute donc de Adam Arishon et de Chava, et petit à petit, de ramener le monde à ce qu'il était antérieurement à la faute et plus encore. Puisque depuis la faute, comme on le sait, le monde a basculé dans la malédiction. On va expliquer plus précisément aujourd'hui quelles sont les trois formes de la malédiction et quelles sont les trois tikkunim, les trois réparations à cette malédiction. Mais donc le monde a sombré dans la malédiction et donc automatiquement le travail qui va commencer avec Abraham et qui va se terminer avec le Mashiach est le travail donc de réparer ou de sortir le monde de sa malédiction pour ramener le monde dans la bénédiction. On sait que le mot Adam, Aleph, Dalet et Mem est formé des trois grands personnages. Ça n'exclut pas tous ceux qui ne sont pas cités, car il y en a énormément d'autres qui sont inclus dans ceux que je vais citer, mais ils sont, on pourrait dire, des âmes qui font partie des trois que je vais citer. Mais le mot Adam se décompose en trois lettres qui sont Aleph, la première lettre qui inclut Adam, qui commence par un Aleph, et Avraham, qui commence par un Aleph, Dalet, qui fait bien sûr allusion à David, et même qui fait allusion à Moshe et Mashiach. Ça fait allusion aussi à quantité d'autres tzadikim, mais qui appartiennent à l'une de ces catégories. C'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire quantité de tzadikim qui appartiennent à l'âme d'Avraham, il y aura des tzadikim qui appartiennent à l'âme de David, et des tzadikim qui appartiendront à l'âme de Moshe ou Mashiach. Mais fondamentalement, Adam Arishon va produire trois âmes fondamentales qui sont chargées de réparer le monde, Abraham, David, Mashiach. Et donc Abraham est le premier. Bien sûr, la réparation du monde va durer toute l'histoire. Il faut être très patient. Il ne faut pas brûler les étapes, quand on le sait, on l'a déjà expliqué, tous les faux messianismes sont au départ un brûlement d'étapes, on veut aller trop vite, c'est-à-dire que l'idée n'est pas forcément mauvaise, l'intention l'est encore moins, elle n'est pas mauvaise, mais il y a une faute au niveau de la précipitation, c'est-à-dire une mauvaise analyse de tous les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir permettre véritablement la dernière étape. Malgré tout, il y a des étapes successives de délivrance dans l'histoire et chaque étape est une délivrance en tant que telle. Comme je disais récemment à quelqu'un, et comme souvent on a ce genre de questions sur le site et ailleurs, pourquoi le rabbi ne s'est pas dévoilé en tant que Mashiach? Pourquoi Bar Korba n'a pas été le Mashiach? Mais qu'il s'ouvre à chaque fois qu'on parle du Mashiach, on a ce genre de questions, mais alors pourquoi? Et la réponse elle est double. D'abord, la délivrance n'est pas un seul moment de l'histoire, c'est-à-dire à la fin. La délivrance est un processus, et chaque processus réussi est une véritable et véritable étape de délivrance. De la même manière que quand tu construis un immeuble, si tu as l'intention de faire 15 étages, le premier, le deuxième, le septième sont, on pourrait dire, une construction incontournable en tant que telle, et ils font partie évidemment de l'immeuble. Et c'est pas parce que le 15e étage est la fin de l'immeuble qu'il est forcément mieux que le 7e. De la même manière, chaque étape est fondamentale. Et la dernière, qui est la délivrance finale et visible, n'est pas forcément mieux que la 3e ou la 4e, dans la mesure où au niveau de la 3e ou la 4e, ce qui devait être fait a été fait. Mais nous, on vit toujours avec cette impatience qui, on pourrait dire, en ce qui nous concerne, est typiquement occidentale, ce que j'appelle génération micro-ondes, où on veut en 5 minutes s'asseoir et se mettre à manger. Et donc il faut prendre le temps, comme la reconstruction d'Israël sur sa terre et toutes les idioties du type « ça ne peut pas être la délivrance parce que sinon comment se fait-il qu'il y ait encore tellement de fautes et tellement de mauvaises choses dans ce pays ?» On a même honte de répondre à des critiques aussi stupides, aussi absurdes, comme si ça pouvait se faire en une heure et ça pouvait se faire en une semaine. Même Dieu a dû prendre 6 jours pour créer le monde, et on pourrait dire plus 6 000 ans pour réussir son monde. Alors si Dieu a besoin de 6 000 ans pour réussir son monde, on peut nous attendre 60, 70 ans, 80, avant que ce qui a été au début la création de l'État d'Israël devienne la délivrance du peuple juif. En tous les cas, donc, il y a un processus qui prend du temps et qui va commencer avec Abraham. Et donc, encore une fois, puisque Abraham sait qu'il est la première réincarnation de Adam, il va devoir donc, d'une certaine manière, réparer la malédiction de Adam. Surtout que de la même manière que lui, que Adam s'est réincarné en Abraham, Chava en Sarah, on a vu hier ou avant-hier que le Nahash lui-même s'est réincarné dans cette génération, et c'est Knaan. C'est d'une certaine manière Ham, particulièrement Knaan, mais c'est d'une certaine manière ce qu'on appelle donc les Chamites, mais on pourrait dire que toute la pulsion nachashique s'exprime à travers Knaan, et c'est pour ça, c'est tout le cours d'hier, que Knaan va s'installer en Eretz Israël, puisque c'est le seul endroit où la malédiction ne peut pas prendre complètement, seulement en surface, et lui essaye de souiller cette terre qui est la seule qui garde encore la bénédiction. Alors, finalement, à l'époque d'Abraham, vont être remis face à face Adam et le serpent, Adam et le Nahash, mais à la différence, c'est que la première fois qu'ils ont été mis en face, le Nahash a bouffé complètement Adam et Chava, et cette boufferie a duré jusqu'à plus ou moins l'époque d'Abraham, où on voit que finalement, il y a eu le déluge, la tour de Babel, Knaan est en Eretz Israël, et c'est à partir d'Abraham que commence, on pourrait dire, le début, on pourrait dire, de la roue qui tourne, c'est-à-dire les forces du bien vont commencer maintenant à remonter jusqu'à la délivrance finale. Alors, pour mieux comprendre ce qui va suivre, avant qu'on commence le texte, on va rappeler quelque chose d'extrêmement important, c'est quelle a été, plus dans les détails, la malédiction qui s'est abattue sur le monde après la faute. Je vous invite à prendre dans Parshat Bereshit, pour ceux qui le veulent. On est dans le chapitre 3, et on va prendre à partir donc, on va prendre à partir du verset 13. Chapitre On va prendre chapitre 4. Chapitre 4 et verset 13. Vayomer Hashem Elokim Laisha. Verset 14. Vayomer Hashem Elokim Elanachash. On passe tout de suite à la punition. C'est-à-dire donc qui est finalement la mise en évidence de la destruction du monde. Vayomer Hashem Elokim Elanachash. Hashem Elokim dit au serpent, qui a cita zot, puisque tu as fait cette chose-là, arur ata mikola behema, tu es maudit. Voilà, la malédiction arrive dans le monde. C'est pour ça que c'est l'une des preuves que Knaan est la réincarnation du Nahash, puisque lui aussi il est arur, comme on le sait, le même mot est utilisé. Donc, arur ata mikola behema, tu es donc maudit parmi toutes les créatures, ou mikol chet asadeh, Al Gechonecha Teler, tu ramperas sur ton corps, etc. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Le verset 15. Ve'eva ashit beinecha u bena isha. Et je placerai la haine, c'est-à-dire donc la guerre d'une certaine manière, entre toi et la femme, ou ben zarecha ou ben zara, entre ta descendance et la sienne, ou yeshufecha roche, lui, tiens, on parlait de la femme, maintenant on parle de lui, lui un homme masculin, comme pour dire que dans le même verset on nous montre qu'en vérité, le conflit est entre tous les humains et le Nahash. On commence par dire la femme et après on parle de l'homme. Ou lui, Yeshufecha Rosh, il t'écrasera la tête. Ve'ata teshufenu akev, et toi tu l'attaqueras au talon. Alors bien sûr, j'ai honte presque de préciser qu'il nous est absolument interdit de prendre ce verset à la lettre. C'est clair qu'il ne s'agit pas d'un serpent tel que nous on le comprend, on le sait. Il ne s'agit pas d'une explication telle qu'on le lit sur le plan littéral. Le Nahash correspond, le Nahash représente, on pourrait dire, une force, une idéologie qui s'incarne dans l'humain, qui s'incarne dans les peuples et qui traverse l'histoire. C'est pour ça que dès le départ, nos maîtres vont dire le Nahash c'est Knaan, après ils diront le Nahash c'est Esav, et après ils diront le Nahash c'est Edom, etc., sans rentrer dans les détails. Le Nahash est bien sûr Amalek, le plus grand de tous les Nahashim, c'est Amalek. Donc, le Nahash des origines est un symbole qu'on va retrouver essentiellement dans l'homme et dans les peuples, bien sûr. Et donc, les commentaires mettent en évidence que quelle est la klala, quelle est la malédiction? C'est tout simplement, en langage moderne, la malédiction de la guerre. Je placerai la haine entre toi et Adam et Chava, c'est-à-dire donc que, à cause de la faute d'Adam Arishon, est né le principe de la guerre entre les hommes, c'est-à-dire essentiellement la guerre entre les destructeurs et les constructeurs, la guerre entre ceux qui sont l'incarnation du Nahash et ceux qui sont l'incarnation d'Avraham. C'est ça la guerre fondamentale. Je n'ai pas dit que toutes les guerres, c'est une guerre entre le Nahash et Avraham ou leurs descendants, mais fondamentalement, comme le dit ici, à partir de la faute, il y aura Eva, Eva Melachon Oyev, l'ennemi. Il y aura constamment, les ennemis, c'est ceux contre qui on est en guerre, il y aura constamment des guerres pendant toute l'histoire qui opposeront les réincarnations du Nahash aux réincarnations de Adam. Donc, toute guerre, en particulier maintenant, toute guerre biblique qui va venir après cette malédiction, a son origine dans la malédiction profanée ici après la faute. À combien plus forte raison la toute première guerre dont va nous parler la Torah, qui est celle qu'on va voir tout de suite, Parshat Lech Lecha, qui est la suite de notre cours, qu'on va voir la fameuse première guerre proche-orientale avec Amraphel, etc., Parshat Lech Lecha. Donc, on voit que premier pan de la malédiction, les guerres entre le Nahash et Adam. On continue. Elaïcha Amar, à la femme, il dit, Arba Arbe Itzboner, je multiplierai ta peine, Veheroner, et les difficultés de la grossesse, Beetzef Teledi Banim, dans la tristesse, tu enfanteras des enfants, Vel Isher Teshukater, et tu seras soumis à ton mari, et il te dominera. C'est une malédiction que le mari soumet la femme. N'oublions jamais ce que la Torah nous dit. Ce n'est pas une idéologie positive. Ce n'est pas un état de fait positif. Ça fait partie de la malédiction du monde. Ce qui veut dire que nous prions tous les jours pour que cesse cette domination de la femme par l'homme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que je ne fais que traduire. Contrairement de la domination de la femme par l'homme. Contrairement, on pourrait dire, contrairement à toutes ces idéologies qui voient dans le fait que la femme est soumise à l'homme, on pourrait dire un état de choses normal, avec toutes les nuances qu'il faut apporter à cette soumission, la Torah dit explicitement que c'est un état de malédiction et qu'une femme soumise, dans le sens que finalement, dans le sens d'étouffer, car attention, quand je dis soumise, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit à s'exprimer. Elle est, on pourrait dire, prisonnière à l'intérieur d'elle-même à cause d'un pouvoir qui s'exerce sur elle et qui ne la laisse pas s'exprimer. Cette situation, une situation de malédiction qui fait partie du monde de la faute, et tout homme qui soumet sa femme, qui ne la laisse pas s'exprimer, est un homme maudit d'après ce qui est marqué ici. Et donc, je reprends donc le texte. « Be'etsev teldi banim » Tu mettras au monde dans la douleur, de la même manière que ça aussi c'est une malédiction et on ne souhaite pas que ça continue, de la même manière la domination de l'homme. Ve'lisher teshukoter. Alors maintenant, que signifie à un niveau beaucoup beaucoup plus profond cette malédiction qui s'abat sur le féminin, qu'elle met au monde dans la douleur? Alors il y a le pshat bien sûr, mais pour ça, excusez-moi, on a besoin de la Torah. Il suffit d'ouvrir n'importe quel livre, les plus anciens, pour savoir que les femmes ont mal lorsqu'elles accouchent, en tout cas jusqu'à la péridurale. Donc, il est clair que la Torah fait allusion à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et en vérité, il y a un secret inimaginable qui se cache derrière ça, pas moins que le secret de l'exil. Si vous avez la patience de chercher dans Parshat Vayitranan, dans le cinquième livre, vous prenez le chapitre 4, et vous prenez le verset 25, dans Vayitranan, cinquième livre, chapitre 4, verset 25, là-bas on lit le fameux passage que nous lisons à Tisha B'Av, jour de l'exil, où nous lisons la paracha qui pour la première fois dans la Torah annonce clairement. Je dis clairement parce que la première fois que l'exil est annoncé, c'est dans notre paracha à nous, comme on va le voir, mais annonce clairement et en détail le futur ou les futurs exils d'Israël. Et regardez comment le verset commence par les mêmes mots que ceux qui sont utilisés au sujet de la malédiction de la femme. Nous voyons qu'au sujet de la femme, il est marqué « Be'etsef teledi banim »« Tu enfanteras dans la douleur ». Et voilà que le verset qui introduit l'exil d'Israël, verset 25, chapitre 4, dit la chose suivante. Qui tolid banim, lorsque tu enfanteras des enfants, ubne banim et des petits-enfants, venoshantem baaretz, et que ça fera déjà un long moment que tu seras sur la terre, veishratem et tu te corromperas, vasitem pesel et tu feras des idoles, ta-ta-ta-ta-ta, jusqu'à avot avedun, maher mealaretz, vous serez chassés de cette terre. Et les commentaires se posent la question, quelle drôle de manière d'introduire, on pourrait dire la paracha qui parle de l'exil, Kitolid banim ou bne banim. Et on sait très bien, tu aurais dû dire tout simplement, Vechino shantem baaretz, ce que de toute façon tu dis, après un certain temps sur terre, car effectivement il s'est écoulé presque 1000 ans entre l'entrée et le premier exil, donc le verset aurait dû tout de suite commencer, Vechino shantem baaretz veishratem, lorsque vous aurez passé un long moment sur la terre et que vous vous corromprez. Tout le début du verset « Vekitolid banim ubne banim » est une lapalissade stupide et n'a rien à faire dans un verset qui est censé incarner la sagesse divine, puisque tout le monde sait que si on passe un long moment sur terre, on a forcément mis au monde des enfants et des petits-enfants. C'est clair. Donc un verset complètement inutile. Alors bien sûr, les commentaires, les maîtres d'Israël plutôt, s'empressent de rechercher le message en vertu du principe fondamental que toute expression qui n'est pas justifiée au niveau du premier sens a forcément un sens caché. Et les commentaires vont nous expliquer ici qu'effectivement la Torah veut mettre en évidence que l'exil à un niveau extrêmement profond et caché, parce que c'est pas l'explication, on pourrait dire, commune et classique qu'on donne pour justifier l'exil, mais à un niveau très 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 profond, et ça va être révélé surtout dans notre paracha comme je vais vous le montrer, l'exil a pour origine la faute de Adam Arishon, ou plutôt la souillure qui est rentrée dans Chava. Chava, en fautant, s'est souillée, elle a attiré sur elle la malédiction, et automatiquement tout ce qui va sortir d'elle est une semence abîmée. Pareil pour l'homme bien sûr, mais la semence sort d'elle. Et donc il va falloir, on pourrait dire, que cette semence se purifie, s'affine, pour qu'on puisse arriver à la délivrance finale. Et jusqu'à la délivrance finale, toutes les générations qui vont sortir du premier couple de l'histoire sont des générations abîmées, ce qui va faire que, en ce qui concerne le peuple juif, par lequel passe plus que par tout autre peuple la réparation de la faute, c'est lui qui va subir plus que n'importe quel autre peuple les effets de la faute qui vont être l'exil. L'exil, vous le savez, dans la Torah, est appelé Kour Barzel. Il est dans notre paracha appelé un four. C'est fabuleux, mes amis. Fabuleux est peut-être pas le mot que j'aurais dû expliquer, mais parce que je parle de la Torah. C'est quand même incroyable que nous allons lire ce Shabbat, et nous encore ensemble, peut-être aujourd'hui, ou en tout cas sur demain, que la première fois que Dieu révèle l'exil à Abraham, il le représente sous la forme de four. Un four avec des flammes de feu qui montent vers le ciel. C'est quand même incroyable que la deuxième fois que Dieu fera allusion à l'exil, cette fois-ci à Moshe, et qu'il parlera donc de ce qu'était l'Égypte, on appelle ça Kour Barzel, un four en fer. Pourquoi toujours cette allusion au four? Alors, je n'expliquerai pas plus, malheureusement. Mais au premier niveau, on comprend que le four est l'endroit où on purifie, l'endroit où on transforme, on purifie le fer, on purifie l'or, on fait aussi du pain, on transforme la nourriture immangeable en mangeable. Le four a une fonction, si j'ose dire, parce que je ne fais plus référence à faire référence à quelque chose d'extrêmement positif. Mais en tous les cas, le four est purificateur. Et donc automatiquement, l'exil est comparé à un four, en ce sens que les générations qui rentrent dans l'exil sont porteuses de la souillure de la première faute, et l'exil va faire l'effet four, c'est-à-dire purifier au plus profond de l'âme les scories des fautes antérieures. Alors cette purification ne se fait pas forcément à ce point visiblement que nous puissions nous le constater, parce qu'avec nos yeux d'ignorants, c'est clair que si on regarde la génération qui a eu le mérite de revenir en Eretz Israël et celle qui a vécu la Shoah et qui est rentrée dans les fours, non seulement on ne voit pas en quoi celle qui est rentrée en Eretz Israël a l'air plus pure que la précédente, et la vérité c'est que c'est le contraire qui semble apparaître. C'est pour ça que le calcul ne se fait pas du tout au niveau de l'appréciation des ânes que nous sommes, et je le dis de la manière la plus sincère possible, car par rapport à des choses comme ça, même dire que nous sommes des ânes, c'est une insulte pour les ânes, parce que ce sont des notions qui dépassent complètement la compréhension humaine. À quel niveau se purifie l'âme? À des niveaux les plus mystérieux, les plus secrets que la compréhension humaine ne peut pas atteindre. Mais une chose est sûre, c'est que toutes les souffrances de l'exil purifient les profondeurs de l'âme et la nettoient de cette souillure qui remonte à la première faute et qui n'a fait qu'augmenter avec toutes les fautes des générations. Et c'est ça le véritable sens du verset. Be'etsev tel di banim, c'est pas comme on explique que la femme dit oui quand elle accouche, parce que ce serait honteux que la Torah nous raconte des sornettes pareilles, mais ce que la Torah veut nous dire, c'est que la souffrance de la mère qui met au monde des enfants, c'est la souffrance des générations qui mettent au monde des enfants qui partiront en exil. Et que finalement, que chaque génération qui naît est une génération de plus en exil. Aussi une génération de moins en exil, parce que plus on avance et moins l'exil durera. Mais imaginez-vous la souffrance des mères qui, si les mères qui ont mis au monde la génération de la Shoah, imaginez-vous si on leur avait montré, d'abord de toute façon ce que j'ai étudié, parce que les mères et les enfants sont partis dans le même train. Mais c'est de ça qu'on parle, que chaque génération met au monde une génération qui porte la souillure et qui va devoir passer par le four de l'exil. C'est ça la malédiction qui s'est abattue, et c'est ce à quoi fait allusion le verset qui parle de l'exil, qui commence par « Kitolid banim ou bne banim » pour bien nous faire comprendre que l'exil est la conséquence de ces générations qui naissent et qui ne se sont pas encore purifiées. Donc, je reprends. Première malédiction, les guerres. Deuxième malédiction, l'exil. Troisième malédiction, on arrive à Adam. Je tourne, je suis au verset 17 du chapitre 3 dans Bereshit. Où les Adam amar et Adam, il a dit, Kishamata l'école ishtecha, puisque tu as écouté ta femme, Va tochal mina et ce que tu as mangé de l'arbre, asher tzivitira les morts, etc. Arura adama bavurecha, la malédiction va même atteindre la terre. Beitzavon tochenla kol yemechayecha, tu mangeras dans la peine. Kotz vedardar tatzmiyar lach, des ronces pousseront. Bezata pecha tochal lechem, et tu mangeras la sueur de ton front. Lui est touché dans ce qu'on appelle la parnassa, dans ce qu'on appelle l'activité matérielle, ce qu'on appelle donc en français le travail, le gagne-pain. Et tout simplement, donc, on voit qu'il est extrêmement touché au point de travailler à la sueur de son front et d'être obligé de manger uniquement des ronces. Et traduit en français, la malédiction qui s'abat sur Adam est la pauvreté. Et donc, on a découvert, mes amis, d'une manière extraordinaire, une chose que nous n'avons jamais expliquée, même lorsqu'on a travaillé sur le texte de Bereshit, on n'avait jamais vu, tout simplement, faute de temps, et faute que ce n'était pas le moment, et faute que de toute façon, chaque chose en son temps, on n'avait jamais expliqué exactement ce qu'était cette malédiction, et nous avons aujourd'hui une définition extraordinaire. Toutes les guerres, tout exil, et toute misère sont les fruits amers de l'arbre défendu. C'est ça la malédiction. Ce qui veut dire que partout dans le monde où est réincarné le Nahash, il va produire de la pauvreté, il va produire de la guerre et il va produire de l'exil. Si on prenait rien qu'à titre de symbole, car on en parle beaucoup en ce moment, la Corée du Nord, d'accord, où presque 1,5 million de personnes sont encore dans des camps de travaux forcés, où 80% de la population meurt littéralement de faim, et où tout ne fonctionne que sur la violence, la guerre et la répression, on a là-bas l'incarnation la plus forte, elle n'est pas la seule, mais la plus forte de ce qu'est le Nahash aujourd'hui. Dans un petit territoire comme celui-là, sont concentrés les trois malédictions récitées ici. Mais on a eu dans l'histoire d'autres endroits. Il y a eu, on s'entend, la Russie, où des millions de personnes meurent de faim, où des millions de personnes sont déplacées, incarcérées, déplacées en Sibérie, et en même temps le pays est en guerre. Les trois malédictions. Lorsque vous avez les trois malédictions qui se trouvent au même moment, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, vous avez en même temps la misère sur le plan matériel, vous avez la déportation, l'exil, et vous avez la guerre, vous êtes en présence d'une génération serpent. C'est-à-dire que ceux qui sont les causeurs, les fauteurs, sont l'incarnation réelle, quand on a les trois en même temps, du serpent des origines. Celui qui dirige la Corée en est un petit. Mais il en est un. Pourquoi ? Parce qu'il est petit, parce qu'il ne fait du mal pour l'instant qu'à son peuple. Hitler était la réincarnation de tout le serpent, puisqu'il a fait du mal au monde entier. Staline, il était la réincarnation aussi de tout le serpent, et ainsi de suite. Donc on a, la Torah nous donne un point de repère pour savoir où se trouve le Nahash. Quand tu as les trois malédictions, sache que tu es en présence du Nahash. Tout celui qui engendre la misère, la déportation et la guerre et le Nahash sur terre. Donc c'est déjà une explication fabuleuse. Et bien vous allez voir mes amis, que dans la suite de notre paracha, on va avoir affaire à ces trois malédictions, la pauvreté, la guerre et l'exil. C'est les trois passages qui suivent dans l'Ech Lecha. Et pourquoi ? À partir du moment où Abraham prend conscience qu'il est Adam et qu'il prend conscience que Knaan est le Nahash, automatiquement le Nahash va produire les trois forces de la malédiction, la pauvreté, la guerre et l'exil. Et Abraham, étant celui qui incarne le tikkun, la réparation, ou dit en français celui qui incarne la force de la bénédiction, puisque dès le début de la paracha, il est béni à 7 reprises. Donc, puisque Abraham, il est dit sur lui, Veheye bracha, et tu seras la bénédiction, automatiquement, il va devoir pour commencer son travail de tikkun, il va devoir repousser les trois forces maudites, il va devoir repousser la pauvreté, il va devoir repousser la guerre, et il va devoir repousser l'exil, et on va voir qu'il va réussir dans ces trois domaines, et il va dévoiler au monde qu'il est le premier réparateur de la faute de Adam, et il va prouver au Nahash que le Nahash a enfin rencontré son maître, qui commence à se dévoiler avec Abraham, et qui finira par se dévoiler encore plus prochainement qu'on le pense, dans notre génération. En tous les cas, lisons maintenant, et vous allez voir, après toute cette introduction, la description parfaite dans notre paracha de tout ce qui est expliqué. On est maintenant dans notre paracha, le verset 10, chapitre 12. On est juste après le cours d'hier. Chapitre 12, on est au début de la paracha, et verset 10. Après qu'on nous ait révélé que Abraham avait reçu les lumières du Hatik et les lumières du Brit, puisqu'il a été dans le Galil, là où il a reçu les lumières du Hatik et il a compris qu'il était Adam et Chava, après il a été à Elon Moré, Shrem, et il a reçu la lumière du Brit, la pureté sexuelle, la force de Yosef, fort de ces deux forces, maintenant il va pouvoir se mettre au travail. Et tout de suite, le verset commence. « Va'ira'av ba'ares, il y eut la famine sur terre. » Pourquoi précisément maintenant? Pourquoi lorsque Avraham arrive en Eretz Israël et qu'il atteint un niveau fabuleux de Hatik, tout d'un coup la famine? Pourquoi? C'est absolument évident, parce que maintenant commence le combat. « Kna'an a fini de conquérir la terre, comme on l'a vu hier. » C'est au moment où Avraham arrive à Shrem, l'endroit le plus sacré, dans le sens de pureté sexuelle, l'endroit de la circoncision. C'est à cet endroit-là qu'on nous dit que Knaan s'y trouve, parce que c'est à cet endroit-là qu'il va construire les abominations les plus anti-sainteté. Et donc, il a terminé son travail de souillure de la terre. Et automatiquement, qu'est-ce qu'entraîne le Nahash ? La pauvreté, la famine arrive. Lui, il est content, c'est ce qu'il veut. Staline a, on pourrait dire, a préparé, pensé, jusque dans les moindres détails, la mort par la faim de plus de 20 ou 30 millions de Russes. C'était programmé, c'était voulu. Et donc, le Nahash Knaan sait ou ne sait pas, comprend ou ne comprend pas, peu importe, mais il est l'instrument d'eux, que sa souillure va entraîner la famine. Pourquoi il n'y a pas de famine avant? Parce qu'il n'y a pas de souillure. Et donc la souillure entraîne la famine. D'une certaine manière, une grosse crise économique comme nous avons traversé, c'est un avertissement à ce genre de phénomène, bien évidemment. Surtout quand c'est en même temps que la vraie ou la fausse, plutôt fausse que vraie, grippe porcine, et que porcine, ça nous fait penser à Édom, et que nos maîtres nous disent que 9 famines se sont abattues sur le monde depuis la première ici, et que la dernière sera juste avant le dévoilement du Machiar. Et nos maîtres disent que cette famine aura pour origine Édom et réduira à néant toute l'économie édomite, ce qu'on appelle les dieux de Édom. By God we trust, sur le dollar. Et donc, à partir de ce moment-là, on comprend que des crises économiques sont un avertissement de ce qui est en train de se préparer. Surtout quand c'est en parallèle avec une maladie dont l'origine est le porc, l'animal qui symbolise dans notre tradition Édom. Et donc, on est en face de phénomènes dont parle la Torah ici. L'excès de débauche sexuelle qui se répand dans le monde entier entraîne directement la famine. D'ailleurs, nos maîtres disent, c'est bon à savoir, que si un homme veut se ruiner, qu'il aille avec une prostituée. Et on apprend ça d'un verset. Pourquoi ? Parce que la débauche attaque directement la matérialité de l'homme. Ce n'est pas forcément un effet immédiat, mais ça vient sûr et certainement. À partir du moment où un homme s'installe dans la débauche sexuelle, il met en danger toutes ses acquisitions matérielles. Et c'est pour ça que la Torah nous explique qu'après que Knaan se soit installé à Shrem, c'est à ce moment-là qu'il a attiré la malédiction de la famine sur sa terre. Et donc, Vayira'av Ba'aretz, la malédiction maintenant est tellement forte, suivez bien, que même Avraham, Vayered Avraham Mitzrayima, même Avraham est obligé de partir en Égypte parce que ça devient piquoir nefesh, un cas de vie ou mort. Et j'explique.
C'est un renoncement.
Mes amis, sachez que dans le dernier chapitre de son Mishneh Torah, c'est ce qu'on appelle Sefer Melachim, le livre des rois, le Rambam Maïmoni termine son œuvre Mishneh Torah qui recense toutes les halakhot du judaïsme. Et donc il termine par ce qu'on appelle le chapitre des rois, où il énonce toutes les lois qui concernent les dirigeants d'Israël. Et Agav, en passant, il parle aussi de la mitzvah de vivre en Eretz Israël. Et le Rambam et son psak fait force de loi, puisque personne ne l'a contredit. Et on a un klal que quand les décisionnaires contemporains du Rambam n'ont pas écrit contre lui, c'est qu'ils ont admis, comme le Ravad et d'autres. Et donc il écrit là-bas le Ramage au suivant. Qu'un homme qui vit en Eretz Israël n'a absolument pas le droit de quitter cette terre pour quelque motif que ce soit, sauf s'il n'a pas de parnassa. C'est l'un des motifs qui est donné, je ne rentre pas dans les détails, il y en a d'autres, mais sauf s'il n'a pas de parnassa sur la terre. Mais le Rambam continue et il dit, qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de parnassa? Ça veut dire que s'il n'y a pas de quoi manger en Eretz Israël, au point que pour pouvoir survivre, on en est réduit à véritablement la stricte alimentation de quoi ne pas mourir de faim, seulement alors on a le droit de quitter la terre. On parle de quitter la terre, et de s'installer ailleurs. On parle encore une fois pas de quelqu'un qui va travailler et qui revient, on parle de quitter la terre. Donc même le Rambam qui permet de quitter la terre pour des problèmes de parnassa, c'est uniquement si tu en es réduit à un état que tu manges tous les jours un morceau de pain et tu bois un verre d'eau pour ne pas mourir de faim. Il dit à partir de ce moment-là, tu peux quitter la terre. Mais il rajoute, mais attention, ce que je dis ne s'adresse pas à ceux qui sont des chassidim, dans le langage du Rambam, de vrais serviteurs de Dieu, car le vrai serviteur de Dieu ne quitte jamais la terre d'Israël, même s'il y a la famine. Et il rapporte la preuve de deux grands dirigeants d'Israël, qui étaient les gendres de Ruth, Kilion et Mahlon, qui ont quitté la terre d'Israël à un moment de famine. Ils sont allés en Jordanie, en Moab. Et là-bas, il est dit dans le livre de Ruth que Dieu les a punis et ils sont morts jeunes. Et les commentateurs disent parce que comme ils étaient eux des chassidim, c'est-à-dire ils étaient des hommes sur le plan spirituel qui étaient des modèles, ils n'avaient pas quitté la terre d'Israël, même en temps de famine. C'est-à-dire qu'ils ont été punis. Voilà comment termine le Rambam. Monsieur tout le monde a le droit de partir s'il crève de faim. Mais monsieur vrai juif ne quitte pas la terre d'Israël, même s'il crève de faim. Sur ça, les commentaires demandent, mais on voit ici que Abraham est oui parti d'Israël. La réponse est aussi évidente que la question, c'était pour, on donne la question pour mieux donner la réponse, que si c'est dans un cas où il y a véritablement, où tu pars, où tu meurs, il n'y a plus rien à manger, là évidemment le Rambam ne parle pas, puisque le Rambam a déjà écrit, selon la loi d'Israël, que toute mitzvah, tout commandement, s'il met ta vie en danger, saute. Donc quand le Rambam dit que les chassidim restent en Eretz Israël, même quand il y a la famine, ça veut dire que malgré tout, tu peux continuer à trouver de quoi survivre, un peu d'herbe, un peu de scie, tu manges de la résine, peu importe. Tu n'es pas dans une situation de mort évidente. Mais si tu es en situation de mort évidente, il n'y a plus rien à manger, dans ce cas évidemment tu peux partir. Et donc quand la Torah nous dit ici que Avraham a quitté le pays, cela nous montre que il était lui-même arrivé à un niveau de pauvreté totale au point qu'il n'avait plus rien à manger, ce qui veut dire que la malédiction du serpent qui est la pauvreté, qui est Knaan, a touché même Avraham. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, il faut que Avraham lui-même soit touché par cette malédiction pour mieux la détruire après, pour mieux la repousser. Il va, d'une certaine manière, la providence va laisser les forces du mal s'emparer d'Avraham à chaque fois, comme on le voit à trois reprises, pour que de l'intérieur du mal, de l'intérieur de l'obscurité, il arrive à repousser le mal et à dévoiler, à faire jaillir comme une source les forces de la bénédiction. Et effectivement, regardez ce qui va se passer. Je saute énormément de choses. Vraiment, presque, ça me déchire le cœur, mais je ne peux pas faire autrement.
Il y a la deuxième condition, il y a l'exil.
Regarde. On est pour l'instant dans la pauvreté. Et donc, regardez maintenant ce qui a marqué. Avraham descend en Égypte, comme on le sait, dans un état de pauvreté totale. Et finalement, il en revient. Regardez le deuxième verset du premier chapitre. « Ve Avraham kaved me'od bemikne bakesef ou bazahav » Avraham revient d'Égypte avec un très grand bétail, avec de l'argent et de l'or. Et un peu plus loin, on nous dit, parce qu'on nous dit que Lot aussi revient avec de l'argent et de l'or, un peu plus loin, on nous dit que le verset 6, « Velo nasa ota maaretz la chevet yardav » La terre n'a pas pu les supporter ensemble. « Ki ayar echusham rav » Tellement ils étaient riches. « Velo yachlou la chevet yardav » Ils ne pouvaient pas rester ensemble. Aujourd'hui, je vais un petit peu vite sur ces notions-là parce que tout le cours de demain sera consacré, entre autres, sur l'approfondissement de ce qui est dit aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vous pose, si vous voulez, le canevas dans lequel on va mettre la tmouna, comment on dit tmouna en français ?
La famine, c'était que sur la terre d'Israël.
Que sur la terre d'Israël, que là où était Canaan, bien sûr, bien sûr. Et donc, Avraham revient avec une immense richesse. Nos maîtres posent la question, combien de temps ça a duré entre la descente et la remontée ? 3 mois. Ce qui veut dire qu'en 3 mois, Avraham arrive à briser complètement toutes les forces de la pauvreté, au point qu'il revient dans le pays de la pauvreté avec une immense richesse. Qu'est-ce qu'il a montré à Avraham ? C'est comme on pourrait dire, comme un combat de catch ou un combat de boxe quand on est malin. On laisse l'adversaire venir et on lui donne le dessus pour que finalement il soit moins sur ses gardes et tu lui donnes un bon coup au mauvais endroit. Avraham, d'une certaine manière sur le plan spirituel, se laisse envahir par les forces de la malédiction, il n'a lui-même plus rien à manger, il descend en Égypte, et là-bas, au cœur même de la puissance chamique, j'explique, il arrive à extraire une fortune immense et à revenir en Eretz Knaan, et cette fortune ne lui sera plus jamais enlevée, il va rester jusqu'à la fin de sa vie un homme immensément riche au point qu'il sera appelé par ses contemporains cananéens « Nasi Elohim ata betochenu » Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. On verra plus tard que l'une des raisons au niveau du pshat pour laquelle même Avimeler le Philistin a voulu faire une alliance avec lui, c'est parce qu'il était stupéfait de voir la bénédiction inimaginable qui touchait Avraham, que là où il plantait une graine, et même dans un désert aride, sans l'arroser, ça poussait, il le transformait en Eretz Israël. On dit plus en Suisse aujourd'hui, on dit en Eretz Israël. Et donc, les hommes ont vu qu'il était attaché à une bénédiction inimaginable. Et ça a commencé à ce moment-là. Par son combat contre les forces de la misère, il a dévoilé la puissance de la bénédiction. Chose très intéressante. Où est-il parti faire fortune ? Eh bien, dans le continent africain. Puisque l'Égypte est le nord du continent africain. Mais globalement, c'est le continent africain. Chez les Chamites, n'oublions pas que Knaan et Mitzrayim étaient quoi l'un par rapport à l'autre ? L'oncle et le neveu. Mitzrayim était le frère du père de Knaan. Le père de Knaan s'appelle... Le père de Knaan s'appelle... Le père de Knaan s'appelle... Le père de Mitzrayim s'appelle... Le père de Canaan s'appelle Ham, et Ham était le frère de Mitzrayim. D'accord? Non, attendez. Non, je me suis trompé complètement, Ham a eu Mitzrayim et Canaan. Mitzrayim et Canaan étaient frères. Et ils avaient pour père Ham, pardon. Ham était le père de Mitzrayim et de Canaan. C'est-à-dire que Mitzrayim et Canaan étaient frères. C'est très intéressant de voir que Abraham quitte le pays conquis par Canaan, qui est donc maudit et affamé par Canaan, et il va aller faire fortune chez le frère de Canaan, chez Mitzrayim. Surtout que Mitzrayim, pour nous, ça va rester dans l'histoire extrêmement porteur et riche en symboles, la descente en Égypte, premier exil, etc. On verra tout ça. Mais en tout cas, et Mitzrayim et Canaan sont les fils de Ham, celui qui a été maudit par Noé. N'oublions pas que Ham a reçu en héritage tout le continent africain. Et on nous apprend ici que Abraham, et n'oublions pas, selon l'histoire de nos maîtres, selon la parole de nos maîtres, que Maase Avot Siman Labanim, que l'histoire des pères est un signe indicateur pour les enfants, que lorsque la terre de Canaan, ou lorsque le premier juif a été frappé de pauvreté, où a-t-il été chercher et faire fortune? Dans le continent africain d'abord. Donc, dans le continent qui a été donné à Ham. C'est quelque chose qui est absolument inimaginable. Tous les symboles et tout ce qui se cache derrière ça et beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas toujours expliquer, mais en tous les cas...
Surtout quand on voit aujourd'hui que le continent africain, c'est le plus pauvre dans le monde.
Quand vous dites Abraham.
Alors, je m'attendais, j'allais le dire, mais je m'attendais à cette révision, mais je ne m'attendais pas à ce que vous le dites comme ça, puisque c'est exactement le contraire qui est vrai, parce que vous dites ce qui est vrai. Le continent africain est en surface l'un des plus pauvres du monde, et en profondeur le plus riche du monde. Et c'est exactement ça le symbole de la malédiction. Rappelez-vous tous les cours sur la malédiction. Qu'est-ce que c'est la malédiction ? C'est que toute ta potentialité est enfermée au plus profond de toi, au point que plus rien ne transparaît. On avait expliqué que Touma, ça vient de Satoum. Si j'enferme, ça veut dire quelque chose à l'intérieur. Le continent africain est le symbole même de cette malédiction où, à l'extérieur, on meurt de faim, mais à l'intérieur, on a de quoi se nourrir et nourrir le monde entier. Et donc on comprend qu'est-ce qu'a été faire Abraham. Il y a un message extraordinaire. C'est aux Juifs de sortir le monde de sa malédiction. C'est la mission du Juif d'aider le monde à sortir de sa malédiction. Ce qui veut dire que quand Abraham part sur le continent africain pour y faire fortune, mais en même temps il va là-bas pourquoi ? Pour commencer à faire ce travail spirituel de démalédictionner cet endroit, de le sortir de sa malédiction. Et d'où on le sait, mes amis, d'où on le sait que Abraham a une intention hautement spirituelle derrière cette recherche de fortune, c'est qu'il ne va pas revenir tout seul de là-bas. Il va revenir avec Agar. Il va revenir avec une femme extraordinaire. Arrêtons de la voir comme... Et elle et son fils étaient des gens extraordinaires, on le verra en son temps. Abraham n'est pas un idiot. Abraham ne va pas s'unir à une simple servante. Et il ne va pas pleurer, verser des larmes de sang lorsqu'il va voir que son fils n'est pas exactement comme il le voulait. Si son fils était vraiment un voyou, comme on nous l'a appris dans notre jeunesse, par des gens qui n'ont malheureusement rien compris à la Torah. Ishmaël est un homme extraordinaire et c'est pour ça que les plus grands maîtres d'Israël porteront son nom jusqu'à très très tard. Le Ishmaël biblique, Dieu nous dit qu'il a fait Teshuvah. Et donc, il va mettre au monde un garçon, un enfant, qui n'est bien sûr pas Yitzhak, mais qui est très loin d'être Esav et encore plus loin d'être Amalek. Et sa femme, Agar, sera appelée dans la Torah Ketorah. Rilachon Ketoret. Elle est pure comme les encens qui s'élevaient au temple. L'encens au temple était considéré comme le plus haut de toutes les offrandes qu'on pouvait apporter, au point que nos maîtres nous disent qu'un Kohen n'avait la possibilité de ne le faire qu'une seule fois dans sa vie. Comme pour dire qu'il te fallait une vie entière pour mériter de faire cette offrande-là. Il faut te préparer toute une vie. Et sa femme porte ce nom. Elle était comme un encens qui brillait dans le temple. Donc Abraham, je vais maintenant, il y aura beaucoup de choses à dire quand on y arrivera, mais j'ai simplement anticipé. Abraham ramène de là-bas une étincelle divine. Il ramène de là-bas un véritable diamant. C'est comme vous le savez, sur ce continent, on trouve de l'argent, on trouve de l'or, on trouve aussi des diamants. Il ramène de là-bas un diamant, matériel et spirituel. Matériel parce qu'il s'enrichit, et spirituel parce qu'il ramène Agar. Ce qui veut dire que la Torah nous montre ici que finalement, quand la misère s'abat sur le peuple juif, eh bien il faut aller faire le tikkun à l'endroit où plus que partout ailleurs, la malédiction fait son effet. Et c'est pour ça qu'il part en Égypte, sur le continent africain, car là-bas tout le monde crève de faim alors qu'ils sont assis sur des milliards. Donc on comprend exactement de quoi on parle. Et donc Abraham réussit, il relève le défi et il montre à Canaan, tu veux me faire crever de faim, on va voir qui est le plus fort, ta malédiction ou celle ou la bénédiction que j'ai reçue de Dieu, puisque Dieu m'a dit, Ve'yeh bracha, je serai une bénédiction. Je descends en Égypte, et de là-bas, je ramène la fortune. Je continue. Demain, je reviendrai car j'ai mis de côté énormément de notions sur ce passage-là. Mais pour l'instant, on construit, comme j'expliquais, le cadre. Deuxième étape, la guerre. La guerre en Eretz Canaan. Bien sûr. Puisque Canaan est producteur de malédiction, et puisque Canaan produit la pauvreté, il va produire aussi la guerre. Et qu'est-ce qui se passe maintenant et pas avant? Il faut attendre que les deux personnages essentiels soient mis face à face, Canaan, le serpent, et Abraham, Adam. Deuxième force de malédiction, la guerre. Une guerre inimaginable explose en Eretz Canaan. Je vais très vite car je m'intéresse pour l'instant qu'à l'essentiel. Et finalement, toute la région qui était la plus riche en Eretz Canaan est mise à feu et à sang, tout le Kikar HaYarden, cette fameuse région bénie des dieux, comme la Torah l'appelle, qui était ce qui est devenu aujourd'hui la région maudite des dieux, toute la région donc de la mer morte, etc., mais qui avant la destruction de Sodome, était, comme le dit la Torah, un véritable paradis terrestre, un paradis sur terre. Et donc, c'est là où se trouvait, on pourrait dire, toute la richesse, toute l'opulence, toute la y compris la débauche et tout le reste dans le pays. C'est là que les Cananéens, si vous voulez, c'était le Dallas d'Eretz Canaan, c'était le Pigalle d'Eretz Canaan, c'était le Dubaï d'Eretz Canaan, c'était la concentration de tous les milliardaires débauchés, corrompus, et tous les casinos étaient là-bas. Mais il faut le prendre vraiment à la lettre, je ne dis rien qu'il soit exagéré, c'était vraiment ce que c'était. Là-bas ne pouvait vivre que celui qui pouvait prouver qu'il possédait au moins 500 millions de dollars. Et c'était des casinos, des orgies, tout ce que vous voulez, toute la journée. Et cet endroit est attaqué, forcément, puisque c'est cet endroit qui est producteur de malédiction, il est producteur de famine, il est producteur de guerre. Et donc, automatiquement, Satan nous montre, là où se trouvait toute, on pourrait dire, toute la malédiction de Canaan dans la vallée du Jourdain, arrive ceux qui vont déclarer donc la première guerre biblique, ceux qui viennent d'Irak et de tous ces endroits-là, l'Irak, l'Iran, tous ces pays-là viennent et s'abattent sur cette région-là. Une guerre énorme, la Torah passe en revue qu'il y a des énormément de tueries, de destructions, etc., etc. Et finalement, dans le lot, c'est le cas de le dire, Lot, dans le Lot, l'eau est capturée. À ce moment-là, Abraham qui se tenait à l'écart jusqu'à présent, parce que ne sachant pas trop si ça le concerne ou pas, parce que Abraham est suffisamment chacham pour savoir au moins ce que nous expliquons aujourd'hui, que ce n'est pas par hasard. Tiens, tout d'un coup, j'arrive dans le pays, la famine. Tiens, tout d'un coup, j'arrive dans le pays, la guerre. Il sait très bien que c'est la faute à Canaan. Il sait très bien que lui, étant le Gilgoul de Adam, a le devoir de faire le tikkun. Mais d'un autre côté, rentrer en guerre seul contre quatre rois qui viennent d'en défaire cinq, qui sont donc beaucoup plus puissants que les cinq qui s'y trouvent, il faut avoir un « fais-moi un signe » comme dans la chanson, pour être sûr que je peux prendre le risque qui est contraire aux lois de la Torah de me mettre en danger sans avoir un signe qu'il faut le faire. Et il attend, le signe lui est donné lorsque Lot est fait prisonnier. Lorsque Lot est fait prisonnier, il comprend, c'est le signe comme quoi je dois réagir, et il réagit, et sans faire de calcul, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine, ils vont tuer Lot, ils vont pas tuer Lot, ça va être pire, ça peut être pas pire. Il réagit comme un juif doit réagir, on fait un prisonnier, on rentre en guerre. Mes amis, j'ouvre une parenthèse qui malheureusement nous fait tellement mal qu'on préférait ne pas l'ouvrir. Deux fois, et uniquement deux fois dans la Torah, je parle de la Torah de Moshe, car après dans la Bible il y a encore plus, mais dans la Torah de Moshe, on fait allusion à la manière dont nous devons réagir quand on nous fait un prisonnier. Ici, et plus tard à l'époque de Moshe, quand le roi de Canaan a fait une prisonnière qui était une servante d'Israël. Ça veut dire tout en bas. Ce n'était pas un soldat, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour nous protéger, ce n'est pas quelqu'un dont la société est responsable parce qu'il est soldat pour nous, c'est une simple servante. Dans les deux cas, il n'y a pas on discute, si tata, ça vaut la peine ou pas la peine, ça va réussir, ça va pas réussir, on sort, on se bat. C'est comme ça que la Torah présente la manière dont le Ham Israël est responsable de ses prisonniers. Parce que si c'est pas comme ça, si tu commences, on va négocier, on va discuter, et si, peut-être, machin, etc. Je vous pose la question. Quand Avraham part en guerre avec 318 soldats contre 4 rois à la tête de centaines de milliers de soldats, est-ce que ça lui est difficile de penser que le temps qu'il arrive, ils vont déjà couper en morceaux Lot? Ici, ce que la Torah nous montre, c'est qu'il ne faut surtout pas faire un calcul cartésien. Parce que rien n'est plus dangereux qu'un calcul cartésien, parce que par définition, il va te paralyser, parce que tu vas trouver mille et une raisons de ne pas avancer. Ici, la Torah nous révèle un principe de fond. On prend un des miens, je fonce. Quitte à mourir tous, l'omanianoti. On n'accepte pas, on ne peut vivre avec l'idée qu'on laisse l'un des nôtres entre les mains de nos ennemis. Comment ?
Bar Korba. Non, il a pris aussi les forces. Enfin, il a combattu, bien qu'il n'avait pas la force. Et
les Maccabim aussi, mais là, ce n'était pas un problème de prisonnier là-bas. Allez, on parle d'un cas pratique. Mais évidemment qu'on a des milliers de guerres dans la Torah où on est parti à 10 contre 100. Et ça, c'est encore un autre problème. Là, je parle du phénomène qui correspond exactement au nôtre. Si Avraham avait pris le temps seulement 5 minutes de réfléchir, je pars avec 318 soldats contre plusieurs centaines de milliers pour sauver mon neveu. Combien de chances j'ai de le retrouver vivant? 0,000000000. Aucune chance. Pourquoi Avraham part? Parce que la Torah nous apprend un principe de vie. Un principe qui est au-dessus de la raison et de la logique cartésienne. Il y a des choses dans l'existence dont l'ennemi numéro un, c'est la réflexion, c'est la logique. Parce que si tu réfléchis trop, tu ne traverseras pas l'histoire.
La deuxième guerre du Liban, c'est ce qu'ils
ont. Comment ?
La deuxième guerre du Liban, c'est ce qu'ils ont fait. Chalit.
Ils l'ont fait.
Je ne réponds pas, parce que dans ce cas-là, il faut plusieurs milliards de cours, et je ne réponds pas. Ça, c'est le principe que la Torah nous apprend. Il n'y a pas. Maintenant, il s'avère que pour Avraham, ça a marché, et il s'avère que pour Moshe, ça a marché aussi. Dans les deux cas, ils sont arrivés à libérer le seul et unique prisonnier.
Qu'est-ce qu'elle a fait ?
Comprenez ? Ce que vous voulez, maintenant, faites ce que vous voulez de ce que j'ai dit. Faites ce que vous voulez de ce que j'ai dit. Alors, si on n'a pas Avraham aujourd'hui, on n'a pas la Torah aujourd'hui non plus. Pourquoi on a la Torah? Je comprends pas. Si on n'a pas Avraham, on n'a pas la Torah. Si vous osez une fois dans votre vie dire tel passage ne concerne que tel homme, prenez la Torah et allez jouer au foot. Parce que dans ce cas-là, si j'accepte une seule fois dans ma vie que la Torah peut-être dirait des choses qui ne me concernent plus, c'est la fin de l'existence du peuple juif. La survie d'Israël ne tient qu'à notre foi absolue, que tout ce que la Torah dit nous concerne, chacun d'entre nous, dans chaque génération et dans chaque lieu. Et sur ça, à votre question, nos maîtres ont déjà répondu, « Yiftach bedoro keshmuel bedoro, en lecha ela ashofet asher » Bador Hazé. Yiftar, sur lequel nos maîtres disent, était un anamaharet, un ignorant. Il nous dirigeait à l'époque, juste avant le roi Shaoul. On avait à notre tête un homme qui s'appelait Yiftach. Et nos maîtres disent, Yiftach était un âme arête, c'était un ignorant, un inculte. Mais nos maîtres disent, dans la mesure où c'est ce qu'on avait à l'époque, il était pour nous comme Shmuel le prophète dans sa génération. Parce que nous avons un principe fondamental. C'est Dieu qui nous dirige dans chaque génération avec la Torah qui est éternelle et ses principes sont vrais dans chaque génération. Donc à partir du moment où la Torah nous dit, le Ham Israël se met en guerre sans la moindre hésitation pour sauver un prisonnier, tout celui qui ne le fait pas est en infraction par rapport à la Torah. Et dire, mais on n'a pas Avraham à notre tête, c'est aller contre ce que nos maîtres disent lorsqu'ils disent Yiftach Bedoro, même si tu as un Amaharetz à ta tête, considère-le comme Shmuel dans sa génération. Donc Avraham, dès qu'il entend que on a fait prisonnier son neveu, tout de suite, sans réfléchir, sans attendre, il prend ses 318 soldats et il part en guerre et il délivre son
Contre exemple, à l'époque de l'Antébé, c'était Rabin et Pérez qui menaient le pays. Ils étaient mieux que Olmert et Tetreux. Je veux dire, donc, le problème, c'était un esprit.
Bien qu'à chaque fois je prends des coups de couteau dans mon cœur quand j'entends ce genre de choses, et nous on n'a pas des signes de Dieu. Nous la guerre de Kippour, c'est pas des milliards de signes de Dieu, la guerre de 48. Mais qu'est-ce que c'est Avraham à côté de nous? Mais je comprends pas, mais des fois je deviens fou de ce genre de réflexion. Mais tous les miracles dont parle la Torah, c'est de la foutaise par rapport aux nôtres. Mais ouvrons les yeux! Mais notre survie chaque jour au milieu de 1 milliard d'ennemis, c'est le plus grand de tous les miracles. Le fait que tous les jours je rentre chez moi, j'ouvre mon frigidaire et il est rempli, alors que 90% de notre budget part pour la défense, part pour les Olim, part pour la reconstruction du pays, et qu'on ne meurt pas tous de faim et qu'on fait partie des pays les plus développés sur le plan économique, et qu'on est le seul pays moderne qui n'a pas été touché par la crise. Et vous dites, oui, mais lui, il a eu un signe. Mais lui, c'est un pauvre type par rapport à vous et moi. Il aurait payé des milliards pour faire partie de la génération où on est, vous et moi. Vous comprenez? Nous sommes une génération qui bénéficions de milliards de miracles par rapport au pauvre Avraham et par rapport au pauvre Moïse. Mais il faut ouvrir les yeux pour comprendre de quoi on bénéficie. Il faut comprendre les yeux. C'est-à-dire que Dieu me pardonne, « Al-Tiftarpe la Satan ». Mais d'après la logique humaine, il devrait y avoir 100 attentats tous les jours dans le pays. Regardez ce qui se passe en Irak. Et Bourg Hachem, les accusateurs ne m'ont pas entendu. On est loin des 100 tous les jours, des 100 tous les mois et des 100 tous les ans. Mais il y a des miracles inimaginables. Mais nous, on vit dedans, c'est normal. Hein. On a des services de sécurité très très forts. Hein. Oui, mais quand ça doit péter, ça pète quand même. Hein. Comprenez. Mais on ne se rend pas compte les miracles. Même le Shabbat ne sait pas comment il fait. Quelle chance il a dans le langage profane et quel miracle il a dans le langage religieux. C'est impossible, ils sont partout. Pourquoi ça ne saute pas tous les jours? C'est des miracles inimaginables. Seulement nous, on vit dedans. Tous les jours, on sort de l'autobus vivant, alors on dit c'est normal. Mais on ne se rend pas compte les miracles qu'il faut. Je vous ai déjà raconté cette histoire extraordinaire. C'était lorsqu'il y a eu l'un des premiers graves et gros pogroms qu'il y a eu à la fin du 19e siècle. C'était le pogrom, je crois, de Kishinev. Ça a commencé à Odessa, Kishinev, Kiev, etc. Et donc on est venu annoncer à un des rabbis de l'époque qu'il y avait eu un pogrom à Kishinev. Et il était avec ses élèves. Et quand il a entendu ça, il s'est levé. Il a pris ses élèves et il s'est mis à danser une danse chassidique avec toute la hitlavout d'un rabbi chassid pendant des heures et des heures et des heures et des nigunim chassidim, etc. Bon, l'autre qui venait d'annoncer ça, était au début, il s'est dit, il n'a pas dû comprendre, il a peut-être entendu le mot mariage. Après, il a dit, il est devenu fou, parce que comme j'ai quand même fait un minimum de descriptions, homme, femme, enfant, ça a dû le... Voilà. Après la fin de la danse, c'est une histoire authentique, mes amis. Après la fin de la danse, je demande, mais rabbi, je vous ai annoncé un pogrom. Il me dit, oui, j'ai bien entendu. Pourquoi vous dansez? Parce que je vais t'expliquer. Normalement, l'annonce de pogrom devrait être tous les jours, plusieurs centaines de fois par jour, si on arrive à comprendre dans quelle situation on est. Et le fait que, heureusement, c'est une histoire folle, mais il faut être de l'époque pour la comprendre, le fait que ce n'est qu'une fois par an ou une fois tous les 3 ans qu'on nous annonce un pogrom, c'est bien la preuve que notre vie est complètement surnaturelle et miraculeuse. Et j'ai dansé pour remercier Dieu de ne pas entendre ce genre de nouvelles tous les jours. Mais il faut être un rabbi d'Odessa ou d'Ukraine pour vivre et le faire vivre. Parce que qui mieux que eux savait que c'est absolument incompréhensible ce qui se passe. Comment se fait-il que tous les jours il n'y a pas un pogrom tellement ils nous haïssent et on est entre leurs mains, il suffit de ça. Et donc c'est au moment du malheur qu'il a compris finalement dans quelle situation de miracle on se trouvait. Mais nous c'est pareil en Israël. Si on comprenait les difficultés inimaginable, unique au monde auquel sont soumis notre économie à cause des problèmes de sécurité et d'intégration, pour ne parler que de ça. Si on comprenait les problèmes de sécurité, les problèmes de société, on est des juifs ashkénazes avec des juifs d'Éthiopie, on est des juifs sfarades avec des juifs russes, etc. Si on comprenait les difficultés inhérentes d'une telle société et qu'on voit que ça marche, on ne peut pas arriver à une conclusion différente, dire que c'est un miracle inimaginable. Je veux dire, ça nous saoule presque de lire la Bible, hein, parce que je veux dire, ils en font tout un plat de leur traversée de la mer, la traversée de la mer dans la vie de tous les jours. Et croyez-moi, je suis sincère en disant ça. Je vous promets que quand je lis la traversée de la mer, ça ne me fait plus rien. Parce que si vous étiez à notre époque, vous verriez que nous, des mers, on en traverse tous les jours et tous les jours et tous les jours. Et quand un homme arrive ici avec une femme et 4 et 5 enfants, et qu'il n'a pas de parnassa, il n'a rien, et au bout de quelques années, on lui demande si c'était à refaire, ce qu'il te dit, c'est dommage, je n'ai pas fait plus tôt. C'est pas une traversée de la mer, ça? C'est pas un miracle inimaginable? Donc bien sûr qu'on a des miracles. Je continue. Chaval, mais j'étais obligé de le faire. Donc en tous les cas, on a vu comment donc Abraham va sortir en guerre pour récupérer son prisonnier. Il va le récupérer. Et il va mettre fin à la guerre, puisque c'est pas seulement qu'il récupère son prisonnier, le texte va plus loin. Il met à plat l'armée qui était en train de ravager le pays, parce que l'armée continuait, elle ravageait tout, elle avait l'intention d'aller jusque de l'autre côté de la mer, enfin jusque de l'autre côté pour arriver à la mer, tout ravager, et il les stoppe dans la vallée du Jourdain. Ça veut dire qu'il est porteur de shalom. La malédiction avait commencé à venir et a commencé à, comme une maladie, comme un cancer, à se propager dans le pays par la faute de Canaan, peu importe. Vient l'homme de la bénédiction, l'homme de la paix, et il stoppe tout. Donc la famine avait commencé à s'emparer du pays. Abraham fait un petit détour de 3 mois, il revient avec une telle richesse qu'il sort le pays de la famine, puisque toute la terre, nous dit le texte, est remplie de sa fortune. Puisqu'il a dû étaler ses troupeaux sur toute la longueur et la largeur de la terre d'Israël, comme on le verra explicitement demain, c'est-à-dire que partout il a donné à manger finalement aux gens qui s'y trouvaient, pour cultiver ses terres, pour faire paître ses moutons, donc il a ramené la bracha dans le pays. Après la guerre, c'est lui qui sauve le pays de la guerre, et petit à petit, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? De montrer aux Cananéens que quoi? Que l'homme de la bénédiction se trouve parmi eux. Et c'est ce qui va aussi expliquer quelque chose assez extraordinaire. C'est pourquoi finalement ils ne l'ont pas tué. Pourquoi ne l'ont-ils pas tué? Il est seul au milieu de plusieurs millions d'anti-Abraham qui, on pourrait dire, le voient comme le danger public de ce que eux représentent. Eux sont des débauchés idolâtres et lui, partout où il va, il construit des hôtels, il monte dessus, il proclame le nom de Dieu. Et il parle de pureté, de vérité partout. Je veux dire, on les connaît tous ces gens-là, comment ils ont fini, Gandhi et tout le reste. Ça ne dure pas longtemps, ce genre de créature. C'est provocateur. Et lui, il continue. Plus encore, tous les rois veulent faire un traité avec lui. Et il finira par être appelé Nasi Elohim Ata Betochenu. Tu es le prince de Dieu parmi nous. Pourquoi? Parce que très vite, ils se sont rendus compte en face de qui ils sont.
En plus, il les méprise.
C'est-à-dire?
C'est à un moment, il leur dit, qu'est-ce que t'as fait la guerre, on va te donner une somme d'argent. Il dit, je ne veux pas votre argent, regardez, je ne veux pas un centime de vous. Alors que pour Paro, il avait pris l'argent de Paro alors qu'il n'avait rien fait. Il avait juste pris sa femme. Alors, regarde, je ne comprends pas. Là, t'as fait un travail, t'as fait la guerre avec eux, tu mérites un salaire.
C'est juste, t'as 100% raison.
De l'autre côté, t'as pris la femme de quelqu'un, t'as rien fait de spécial, tu ressors riche.
Et pourquoi? Parce que justement, il veut leur montrer que la bracha qu'il porte l'enrichira et le fera réussir au milieu des Cananéens sans le moindre aide des Cananéens. Bien que tout ça, ça va être beaucoup nuancé demain. Demain, on va rentrer à nouveau dans le texte. Je termine juste sur le compte de mon prochain cours. Après, troisième chose, après que Knaan ait amené la famine et que Avram l'a repoussé, après que Knaan ait amené la guerre et que Avram l'a repoussé, maintenant, troisième annonce, ça se suit, l'exil. Dieu dit à Abraham, et ça on le verra dans le texte demain, demain on est mercredi, donc encore demain et jeudi, il dit à Abraham, sache que tes enfants seront en exil. Tiens, ça touche les enfants, je vous expliquais pourquoi. Et là aussi, on voit que Abraham, en même temps qu'il entend que ses enfants seront touchés par l'exil, donc la malédiction cananéenne, car je vais vous prouver dans le texte que l'exil est dû à la malédiction cananéenne, comme c'est marqué explicitement, on le verra demain, vous pouvez le voir tout de suite, c'est marqué dans le verset 16, dans le chapitre 15. « Vedorevi'i yashuvu ena » Seulement la quatrième génération pourra revenir. « Kilo shalem avona emori ad ena » Jusqu'à ce que la faute du emori soit complète. Ça veut dire que le Hémori, qui est un des sept peuples cananéens, pour aujourd'hui, demain j'expliquerai différemment, mais au niveau du Pshat, le Hémori qui est un des sept peuples cananéens, est en état de faute. Cette faute va durer quatre générations, et c'est à cause de cette faute que Israël doit être en exil pendant quatre générations, jusqu'à ce que le Hémori, Shalem et Ta'avot, ait fini sa faute. On l'expliquera demain. Donc la Torah dit clairement que l'exil d'Israël, la descente en Égypte, qui contient en vérité tous les autres, est liée à la faute que le Hémori faisait en Eretz Israël. Demain j'explique. Mais en tout cas, pour l'instant, on a fini le cadre. Donc on voit que finalement, les trois malédictions qui s'abattent sur Israël, sur Abraham, sont liées au serpent qui est le Cananéen, la misère, la guerre et l'exil. À chaque fois, Abraham va prouver que même s'il donne l'impression d'être dans un premier temps vaincu, il sera le vrai vainqueur. C'est la victoire de la délivrance finale. Où pendant toute l'histoire, le Ham Israël semble sous les bottes de son oppresseur. Mais en vérité, à la fin de l'histoire, c'est Israël qui va faire tomber son oppresseur. Et là aussi pareil, Dieu dit effectivement que les enfants d'Abraham seront en exil. Aval veyashuvu, ils reviendront. Parce qu'aucune des trois forces de la malédiction arrivera à bout d'Israël. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Et donc demain, ce qu'on fait, c'est de reprendre chacun de ces trois textes, chacune de ces trois parties. Et je vous montrerai des éléments nouveaux extrêmement importants dans chacune de ces trois parties. Et donc... c'est fini pour aujourd'hui.